Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 24. Inconsciente des efforts de son mauvais génie pour étouffer la tendresse naissante qu'elle avait éveillée dans le cœur de Farfrae, Élisabeth fut heureuse d'entendre Lucetta la prier de rester auprès d'elle. Car si la maison de la place haute lui tenait lieu de foyer, la vue du marché qu'elle commandait avait autant d'attirance pour elle que pour Lucetta. Comme le plateau de la comédie classique, le carrefour était l'endroit où surviennent toujours les incidents destinés à influer sur le sort des habitants du voisinage. Fermiers, négociants, éleveurs, charlatans et colporteurs s'y donnaient rendez-vous de semaine en semaine pour s'éclipser quand arrivait le soir. C'était le point nodal de toutes les orbites. Pour les deux jeunes femmes, l'intervalle d'un samedi au samedi suivant représentait maintenant celui d'un jour à l'autre. Elles ne vivaient pas le reste de la semaine, au point de vue sentimental. Si elles faisaient des courses les autres jours, elles ne manquaient jamais de rester à la maison le samedi. Elle jetait par la fenêtre des regards furtifs sur les épaules et la tête de Farfrae, dont elle voyait rarement le visage, car, soit timidité, soit crainte de compromettre son sens des affaires, il évitait de regarder dans leur direction. Ainsi allaient les choses, jusqu'à une certaine matinée de marché, qui fut la scène d'émotions nouvelles. Elizabeth Jane et son amie étaient assises à la table du déjeuner, lorsqu'un paquet contenant deux robes arriva de Londres à l'adresse de Lucetta, qui courut à sa chambre et appela bientôt Elisabeth. La jeune fille vit les deux robes étalées sur le lit, l'une de couleur cerise foncée, l'autre plus claire. Un gant était fixé au bout de chaque manche, un chapeau en haut du col et un parasol placé en travers du tout. Lucetta se tenait devant les silhouettes ainsi figurées, dans une attitude de méditation. « Je ne me donnerai pas tant de peine, fit Elisabeth, en remarquant l'attention intense avec laquelle Lucetta balançait les avantages de telle ou telle disposition. « Il est si troublant de fixer son choix sur des robes nouvelles, expliqua Lucetta. Vous serez tout le printemps, cette personne-ci, elle désignait une des robes, ou celle-là, elle montrait la seconde, et l'une des deux sans que vous sachiez laquelle pourra devenir inadmissible. Elle finit par décider, à tout hasard, d'être la personne couleur cerise. La robe allait parfaitement bien, et Lucetta la garda pour se promener dans le boudoir avec Elisabeth sur les talons. La matinée était exceptionnellement belle pour la saison. Le soleil frappait si bien murs et trottoirs en face de la maison de Lucette que leurs reflets inondaient les pièces. Tout à coup, on entendit un bruit de ferraille, et à la nappe de lumière vinrent se joindre une série de cercles fantastiques qui se jouaient sur le plafond. Les deux femmes se tournèrent vers la fenêtre. Devant la maison s'était arrêté un véhicule étrange que l'on aurait cru placé là pour une exposition. C'était le nouvel instrument aratoire, appelé de nos jours semeuse à cheval et inconnu encore à l'époque dans ces régions, où l'on employait toujours le vénérable semoir comme au jour de l'heptarchie. Son arrivée causait autant de sensations sur le marché au grain qu'une machine volante en amènerait à Charing Cross. Les fermiers se groupaient autour de la semeuse, les femmes s'approchaient. Les enfants se glissaient sous ou dans la mécanique. Peinte de couleurs vives, vertes, jaunes et rouges, elle ressemblait à une bête fabuleusement agrandie, composée de frelons, de sauterelles et de crevettes. On aurait pu encore la comparer à un instrument de musique posé d'aplomb, et dont la partie antérieure aurait été supprimée. C'est cette idée qui frappa Lucetta. « Tiens, on dirait une sorte de piano agricole !» s'écria-t-elle. « Cela doit avoir trait à la culture du blé !» suggéra Elisabeth. Je me demande qui a pensé à introduire cette machine-là dans le pays. Les deux jeunes femmes songeaient à Farfrae, comme à l'innovateur possible, car sans être fermier lui-même, l'Écossais s'intéressait fort à toutes les choses de la culture. Comme pour répondre à leurs pensées, le jeune homme survint à ce moment même, regarda la machine, en fit le tour, et en mania les organes, comme s'il avait connu le mécanisme. Les dames avaient tressailli en le voyant, et Elisabeth s'éloigna de la fenêtre pour se réfugier au fond de la pièce où elle parut s'absorber dans la contemplation des lambris. Elle se rendait à peine compte de ce mouvement instinctif lorsque Lucetta, tout au plaisir de sa robe nouvelle et de la vue de Farfrae, s'écria « Allons donc voir cette machine, quelle qu'elle soit !» En un instant, Elizabeth Jane avait mis châle et chapeau et sortait avec sa compagne. Mieux que tous les paysans groupés autour de la semeuse, Lucetta faisait figure de digne propriétaire de la machine, car seule la couleur de sa robe pouvait rivaliser avec celle de l'instrument. Les deux femmes examinaient curieusement la semeuse, se penchaient sur les rangées de tubes en forme de trompettes encastrés les uns dans les autres, et sur les augettes pareilles à de petites cuillères tournantes qui versaient la semence dans l'extrémité supérieure du tube chargé de la conduire au sillon. Lorsqu'une voix lança ces mots « Bonjour, Elizabeth Jane !» La jeune fille releva la tête et aperçut son beau-père. Son « bonjour » avait été un peu sec et tonitruant, et, trahi par son calme ordinaire, Elizabeth balbutiait pour dire quelque chose. « Voici la dame chez qui je vis, père, Miss Templeman. » Henchard enleva son chapeau et l'abaissa jusqu'à son genou, avec un grand geste ondoyant. Miss Templeman s'inclina. « Je suis heureuse de faire votre connaissance, monsieur Henchard, » fit-elle. « Voici une bien curieuse machine. » « Oui, » admit Henchard, qui se mit à expliquer le fonctionnement de la mécanique avec un désir manifeste de la tourner en ridicule. « Qui donc l'a introduite ici, sans qu'il eût cet état ?»« Oh, ne m'en parlez pas, madame, » gronda Henchard. « Une machine pareille, cela ne peut pas marcher. C'est un de nos mécaniciens qui l'a fait venir, sur le conseil d'un petit parvenu, d'un freluquet qui croit... » Apercevant le visage implorant d'Elizabeth Jane, il s'arrêta court, en pensant sans doute que le mariage devait être en bonne voie. Il tournait le dos pour s'en aller, lorsque se produisit un petit fait que sa belle-fille prit pour une hallucination de sa part. Des lèvres d'Henchard sortait un murmure, où Elizabeth crut distinguer ses paroles adressées sur un ton de reproche à Lucetta. « Vous avez refusé de me voir !» Elle ne pouvait croire qu'une telle phrase, si elle sortait de la bouche de son beau-père, fût destinée à tout autre qu'à l'un des fermiers à guêtres jaunes qui se pressaient autour d'eux. Lucetta garda le silence, et un fredonnement qui paraissait sortir de l'intérieur de la machine vint dissiper toute pensée de l'incident. Henchard venait de disparaître sous le marché couvert, et les deux femmes jetèrent les yeux sur la semeuse. Elles virent, derrière la machine, le dos courbé d'un homme qui plongeait la tête dans les divers organes comme pour en pénétrer les simples secrets et qui continuait à chantonner. C'était un bel après-midi d'été, un peu avant le coucher du soleil, que Kitty, avec sa belle robe neuve, a passé la colline pour venir à Gowrie. Elizabeth Jane, qui avait tout de suite reconnu le chanteur, restait interdite, sans savoir pourquoi. Lucetta le reconnut bientôt à son tour, et plus maîtresse d'elle-même, fit malicieusement. « La jeune fille de Gowrie qui sort d'une semeuse, quel phénomène !» Satisfait de son examen, le jeune homme finit par se relever et rencontra par-dessus la machine les yeux des deux femmes. « Nous regardions cette nouvelle semeuse, » expliqua Miss Templeman. « C'est une machine étonnante, mais absurde au point de vue pratique, n'est-ce pas ?» poursuivit-elle, sur la foi de l'affirmation d'Henchard. « Absurde ? Oh non !» protesta gravement l'Écossais. « Elle va révolutionner la pratique des semailles dans le pays. Plus de semeurs pour jeter à la volée le grain, dont une partie tombe sur le chemin et une autre dans les épines. Chaque semence sera déposée à l'endroit voulu et non à un autre. » Alors, c'en est fait pour toujours du pittoresque des semailles, fait Elizabeth Jane, qui se sentait pour une fois à la hauteur de Farfrae, dans la connaissance de la Bible. « Celui qui observe le vent ne s'aimera point, » a dit le sage, « mais de telles paroles ne seront plus de mise, comme les choses changent. » « Oui, oui, c'est bien vrai, » approuva Donald, les yeux perdus sur un point de l'espace. « Mais ces machines-là sont déjà couramment en usage dans l'Est et le Nord de l'Angleterre, » ajouta-t-il sur un ton d'excuse. Lucetta, que sa connaissance un peu limitée de la Bible tenait à l'écart de telles considérations, intervint en demandant à Farfrae « Est-ce que cette semeuse est à vous ?»« Oh non, madame, » répondit-il, aussi gêné et aussi déférent au son de cette voix qu'il avait paru à son aise en face d'Elizabeth Jane. « Non, non, j'en ai seulement conseillé l'acquisition. » Pendant le silence qui suivit, Farfrae parut n'avoir conscience que de la présence de Lucetta. Il ne voyait plus Elizabeth pour être passé dans une sphère d'existence plus brillante que la sienne. Lucetta, qui le sentait très distrait ce jour-là, et partagé entre ses préoccupations commerciales et romanesques, lui dit gaiement « Allons, ne négligez pas votre machine pour nous !» et rentra dans la maison avec sa compagne. Elizabeth s'était sentie de trop entre les deux jeunes gens, sans pouvoir cependant se rendre compte de la raison de sa gêne. Lucetta éclaira un peu l'état des choses, en disant lorsqu'elles se retrouvèrent dans le boudoir. « J'avais eu l'occasion de causer l'autre jour avec Monsieur Farfrae. C'est ce qui me l'a fait reconnaître ce matin. » La jeune femme se montra très aimable pour Élisabeth ce jour-là. Ensemble, elles virent la foule grossir sur le marché, puis se disperser avec le lent déclin du soleil, dont les rayons, entrés en haut de la ville par le bout de la rue, en prenaient d'enfilade toute la longueur. Tapissières et cabriolets disparurent un à un, et il ne resta bientôt plus un seul véhicule sur le pavé. L'heure des voitures passées, celle des piétons avait sonné. Venus de leur village avec femmes et enfants, les travailleurs des champs faisaient leurs emplettes de la semaine, et le vacarme des roues et des chevaux avait fait place au bruit de pieds innombrables. Tous les instruments agricoles avaient disparu avec les fermiers et la classe possédante. Le commerce de la ville ne se faisait plus par achats massifs, mais par emplettes multiples, et l'on échangeait maintenant des sous, où l'on avait 2 heures plus tôt échangé des livres. Lucetta et Élisabeth continuaient à regarder au dehors, car elles n'avaient pas fermé les volets, malgré la nuit tombée et les réverbères allumés. Leur causerie se fit plus libre à la faible lueur du feu. « Votre père s'est montré bien froid avec vous, » fit Lucetta. « Oh oui !» Et oubliant le mystère des paroles adressées par Henchard à sa compagne, Élisabeth expliqua. « C'est parce qu'il ne me trouve pas assez d'âme. Vous ne sauriez croire ce que j'ai fait pour le devenir, mais en vain. La séparation de mes parents a été un malheur pour moi. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir de pareilles ombres sur sa vie. » Lucetta tressaillit. « Non, celles-là précisément je ne les ai pas connues, » murmura-t-elle. « Mais il y a d'autres espèces de honte, d'infamie, que l'on peut souffrir. »« Auriez-vous jamais éprouvé rien de pareil ?» demanda innocemment la jeune fille. « Oh non !» fit vivement Lucetta. « Je pensais seulement à ce qui arrive quelquefois, quand des femmes, sans aucune faute de leur part, se trouvent aux yeux du monde dans de singulières situations. Elles doivent être bien malheureuses par la suite. Elles sont inquiètes surtout, car les autres femmes pourraient les mépriser. » Les mépriser, pas absolument, mais ne pas les aimer ou les respecter. Lucetta eut un nouveau tressaillement douloureux. Son passé n'était pas du tout à l'abri des indiscrétions, même à Casterbridge. Pour commencer, Henchard ne lui avait jamais rendu le monceau de lettres qu'elle lui avait adressé dans sa première émotion. Peut-être les avait-il détruites, mais elle eût préféré ne les avoir jamais écrites. La rencontre avec Farfrae et son attitude en face de Lucetta avait attiré de façon plus précise sur sa brillante et aimable compagne l'attention de la grave Élisabeth. Quelques jours plus tard, rencontrant les yeux de Lucetta qui se préparait à sortir, elle comprit instinctivement que Miss Templeman nourrissait l'espoir de revoir le séduisant Écossais. La chose était écrite en gros caractères sur les joues et les yeux de la jeune femme, pour quiconque savait y lire, comme Élisabeth commençait à le faire. Lucetta sortit de la pièce et ferma la porte de la rue. Une sorte de clairvoyance qui s'imposait à Élisabeth obligea la jeune fille à s'asseoir près du feu pour voir avec une telle précision, d'après ses données antérieures, les faits de l'heure présente qu'elle aurait pu témoigner de leur réalité. Elle suivit ainsi mentalement Lucetta, assista à sa rencontre, apparemment fortuite, et en un lieu quelconque, avec Donald, saisit dans les yeux de l'Écossais le regard particulier qu'il avait en présence des femmes et qui s'accentuait cette fois en face de Lucetta. Elle vit l'ardeur chaleureuse de son attitude, l'indécision des deux jeunes gens partagée entre leur répugnance à se quitter et leur crainte des yeux curieux. Elle sentit leurs mains se serrer et admira au moment de la séparation l'apparente froideur de leur maintien et de leurs gestes, et l'étincelle de passion invisible pour tout autre qu'eux-mêmes qui luisait dans des plis imperceptibles de leur visage. Muette et pénétrante sorcière, elle réfléchissait encore à toutes ces choses lorsque l'arrivée silencieuse de Lucetta la fit tressaillir. Tout s'était bien passé comme elle venait de le voir. Élisabeth en aurait juré. Il y avait, au-dessus de l'animation des joues de Lucetta, une lueur exaltée dans ses yeux. « Vous venez de voir Monsieur Farfrae ?» fit tranquillement Élisabeth. « Oui, comment l'avez-vous su ?» Et se mettant à genoux devant l'âtre, Lucetta serra vivement les mains de son amie dans les siennes. Mais elle ne raconta point où ni comment elle avait rencontré l'Écossais, ni ce qu'elle lui avait dit. Sa nuit fut agitée. Au matin, elle se sentait fiévreuse et avoua pendant le déjeuner à sa compagne que quelque chose la tourmentait. Un fait concernant une personne à qui elle s'intéressait fort. Elisabeth était prête à écouter son histoire avec toute sa sympathie. Cette personne, une dame, avait en un temps admiré, beaucoup admiré un homme, commença-t-elle prudemment. « Ah ! » fit Elizabeth Jane. « Ils eurent une certaine, une grande intimité. L'homme ne faisait pas autant de cas de la dame qu'elle de lui. Pourtant, dans un élan généreux et ému par un simple désir de réparation, il lui proposa de l'épouser. Elle accepta. Mais un obstacle imprévu empêcha le mariage. La dame se sentait pourtant si compromise que sa conscience semblait devoir l'empêcher à jamais d'appartenir à un autre homme, quand bien même elle l'aurait désiré. Ils restèrent longtemps séparés, sans rien savoir l'un de l'autre, et mon amie sentait sa vie définitivement brisée. Oh, la pauvre ! Elle eut beaucoup à souffrir du fait de cet homme, bien qu'il ne fût pas, il faut l'avouer, entièrement à blâmer de ce qui était arrivé. Un beau jour, l'obstacle qui les séparait fut providentiellement supprimé, et il revint pour l'épouser. Ah, voilà qui est parfait ! Seulement, dans l'intervalle, elle, ma pauvre amie, avait rencontré un autre homme qu'elle préférait au premier. Et maintenant la question se pose, pouvait-elle en tout honneur renvoyer son ancien ami ? Un autre homme qu'elle préférait au premier ? C'est bien mal ! Oui, soupira Lucetta, avec un regard douloureux sur un enfant qui balançait la brimbale de la pompe de ville. « Oui, c'est mal, mais il faut vous rappeler que l'équivoque de sa situation avec le premier homme était le fait d'un pur accident, qu'il était moins bien élevé, moins distingué que le second, et que la dame avait découvert en lui certains traits de caractère de nature à en faire un mari moins souhaitable qu'elle ne l'avait cru tout d'abord. « Je ne saurais répondre, » fit Elisabeth d'un ton pensif. « Le cas est trop épineux. Il faut un pape pour trancher des difficultés de ce genre. »« Peut-être préférez-vous ne rien dire ?» fit Lucetta, dont l'accent suppliant montrait combien elle prisait le jugement d'Elisabeth. « Oui, Miss Templeman, » avoua Elisabeth, « je préfère ne pas me prononcer. » Apparemment soulagée, cependant, par le simple fait d'avoir exposé la situation, Lucetta sentit son mal de tête se dissiper peu à peu. « Apportez-moi le miroir. Quel effet croyez-vous que je fasse à ceux qui me regardent ? » demanda-t-elle d'un ton languissant. « Oh, on doit vous trouver un peu fatiguée, » répondit Elisabeth, en regardant sa compagne, comme un expert examine un tableau d'authenticité douteuse. Elle alla chercher le miroir et le tint devant les yeux de Lucetta, qui s'y mira avec inquiétude. « Je me demande si mon visage tient avec l'âge, » fit la jeune femme après un instant de silence. « Oui, assez bien. » Où est-il le plus fané ? Sous les yeux, j'y vois un peu de brun. Oui, c'est mon point faible. Combien d'années croyez-vous que je résiste encore, avant d'être irrémédiablement laide ? Il était assez étrange qu'Elisabeth, la plus jeune des deux femmes, fût arrivée à jouer dans ces discussions le rôle de l'expérience assagie. 5 ans, peut-être, fit-elle d'un ton sagace, ou 10 même, avec une vie paisible. Oui, sans amour, vous pourriez compter sur 10 ans. Lucetta parut accueillir ces paroles comme un verdict impartial et irrévocable. Elle ne parla plus à Elisabeth de l'attachement passé, qu'elle avait dans ses grandes lignes attribué à une tierce personne, et Elisabeth, qui, malgré sa philosophie, avait le cœur sensible, pleura toute la nuit dans son lit, à la pensée que sa jolie, sa riche Lucetta ne lui confiait pas en tout abandon les noms et les dates de son histoire, car elle ne s'abusait pas sur la personnalité de la dame dont avait parlé Lucetta.